entre cime et racine. Une émission de Radio Zinzine, réalisée en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Chez Marie et Thibault en Dordogne. Première partie. Couvrant près d'un million d'hectares en France, le châtaignier occupe le quatrième rang des espèces d'arbres feuillus. En Dordogne, il a une place centrale représentant plus de 120 000 hectares. Le châtaignier a été longtemps traité en taillis simple, c'est-à-dire des coupes totales tous les 25 ou 30 ans. C'est encore une pratique largement majoritaire là où il y a encore le châtaignier. Mais depuis les tempêtes et les sécheresses répétées, les taillis de châtaigniers aquitains sont de plus en plus rasés et dessouchés pour être remplacés par des monocultures de pins et de douglas. Peut-on éviter cet itinéraire brutal qui remplace une ambiance forestière par un chaos dont l'écosystème se souviendra longtemps? Faut-il simplement laisser dépérir ces taillis en attendant patiemment un renouvellement naturel ou les aider à évoluer vers un écosystème stable? Quelle est la faisabilité technique et économique de cette sylviculture douce? Voilà les questions auxquelles le Réseau pour les alternatives forestières a voulu répondre en organisant un chantier de sensibilisation chez Thibault Darvin, éleveur ovin et membre du réseau. Avec Marie Clessin et des amis locaux, ils ont créé l'association Forêt sans âge, qui milite pour une gestion forestière dépassant la coupe rase et la monoculture de pins maritimes et de douglas. L'association entend sensibiliser les propriétaires et les aider à mettre en place une gestion forestière douce. C'est pour donner un coup de pouce à cette dynamique que le chantier a été organisé chez eux. Nous nous sommes donc retrouvés pendant 3 jours, fin octobre 2010, sur la ferme de Thibault, à Rudeau-Lados, dans le nord Périgord. Écoutons d'abord Marie Clessin qui présente l'association Forêt sans âge qui a été créée en 2009.
J'imaginais bien un peu le motif de sa naissance, c'est d'assister visuellement déjà à une certaine brutalité faite aux forêts par des coupes rases et tout. Donc ça, ça a été le déclencheur, en tout cas chez moi. Et on s'est dit, tiens, mais même en tant que petit propriétaire forestier, on est un peu démuni au niveau information. À qui on doit s'adresser? Est-ce qu'il faut vraiment intervenir dans notre forêt? Oui, comment? Enfin, pourquoi et tout. Et donc, on s'est dit, on va monter une association pour justement pouvoir aider la démarche auprès des petits propriétaires. Et on va même plus loin parce que dès qu'on touche à la forêt, ben, il y a une filière qui vient derrière. Donc, l'objectif futur de l'association, c'est au niveau local, en tout cas, c'est de pouvoir un peu repérer quelles sont nos énergies forestières dans le coin, hein, nos ressources, et travailler ensemble pour justement créer ce réseau local. Alors moi, je remercie beaucoup le réseau Alternative Forestière parce que c'est quand même une source d'information, de sensibilisation et surtout d'encouragement qui fait que, bon, on ne se sent pas seul et puis on sent qu'il y a une certaine cohérence dans la démarche. Hein. Pour moi, c'est aussi très important. Enfin, peut-être que Thibault veut parler de l'association, je ne sais pas.
La difficulté, c'est qu'on est sur un territoire avec des pratiques bien, bien ancrées depuis très, très longtemps. Et c'est à respecter aussi parce que culturellement, je veux dire, c'est pas parce qu'on est néo-ruraux arrivant ici, arrivé avec des idées toutes faites, c'est pas ça qui permet d'établir un dialogue. Et ce qui a été entrepris là, surtout avec ce week-end, c'était surtout cette valeur d'exemplarité. C'est-à-dire qu'il y aura enfin eu un chantier où il y aura eu une pratique particulière. Donc d'exploitation qui aura été faite, même si j'aime pas le terme d'exploitation, parce que être exploité, il y a toujours un perdant dans les exploités. On sait pas si c'est la forêt ou si ce sont les hommes, mais enfin bon voilà, on emploie le vocabulaire qu'on a. Et donc je crois que pour beaucoup de propriétaires qui aujourd'hui ont juste une forêt qui a été transmise de génération en génération en tant que patrimoine familial, au-delà de l'amour contemplatif de se dire ma forêt, voilà, elle est à moi, j'y suis bien, j'y cherche une tranquillité, mes champignons et tout ça, c'est de se dire voilà, il y a moyen d'avoir une forêt qui, malgré le fait qu'on y ait travaillé, entre guillemets, après, ça dépend des objectifs de chacun, elle est toujours intacte, elle est toujours là. Dans un an, ça tombe, je mets quiconque au défi en passant dans les bois, là, le long du chemin où on était, de se dire, tiens, on a travaillé là. Donc voilà, je crois que cette valeur d'exemplarité est très très importante parce que ça va nous permettre de montrer aux gens. Alors de nouveau, pareil, c'est arrivé à bouger des forces vives. C'est vrai que les propriétaires ne sont pas encore très très répondants à l'appel, mais je crois que déjà la médiatisation qu'il y aura eu autour de cet événement va permettre aussi à Forêt sans âge de vraiment décoller. C'est-à-dire que les gens vont certainement être interpellés en se disant, moi j'ai de la forêt, voilà, je ne savais pas quoi en faire. Donc ça va être bien, c'est qu'on va pouvoir permettre surtout d'établir, enfin, comme le réseau un peu alternatif forestier, on essaye de faire, c'est-à-dire que dans le groupe, il y a des gens qui sont en amont et en aval. C'est que ici, pour nous aussi, c'est peut-être le péché de beaucoup de personnes qui sont dans cette démarche-là, c'est l'aval, c'est-à-dire que la commercialisation et tout. Et je me dis, du bois de chauffage avant, qui a été produit d'une certaine manière, il y a des gens qui seront solidaires de cette démarche-là. Même si l'Aster coûte peut-être 5 ou 10 euros de plus, je crois qu'il y a des gens qui sont prêts à passer le cap. Et voilà. Je suis paysan avec Muriel sur une petite ferme de 12 hectares de prairies avec un tout petit troupeau de moutons, de 60 mères. On fait de la vente d'agneaux bio en direct, directement aux consommateurs. Et on a aussi une vache qui nous fait une génisse chaque année, donc qu'on peut commercialiser. Alors cette propriété est typique du Nord Périgord, c'est-à-dire on est au cœur du parc Périgord-Limousin. Et elle comporte non seulement 12 hectares de prairies, mais 40 hectares de bois, ce qui est assez rare d'avoir autant de bois, et tout ça d'un seul tenant. Dans ces 40 hectares de bois, il y a 16 hectares de taillis châtaigniers, qui sont vieillissants, qui n'ont plus été exploités depuis une trentaine d'années, qui sont assez atteints par le chancre, donc la maladie qu'on retrouve ici principalement, puisqu'il y a, en gros, on estime à 50 000 hectares de châtaigniers ici dans le nord d'Ordogne. Nous, comment on fonctionne sur la ferme, c'était de viser le maximum l'autonomie. Donc, du bois de chauffage, il y en a pléthore. Là, un chantier comme ça, c'était l'opportunité d'avoir les bois de charpente donc pour la restauration de la maison, puisque maintenant, ça fait 8 ans qu'on a démarré donc le chantier de restauration des bâtiments, où on a récupéré que des murs. Et donc là, on va enfin pouvoir restaurer les bâtiments, une partie avec les bois de la propriété. Donc c'était tout à fait pertinent d'organiser un chantier ici sur la propriété.
Voilà. Vous avez prévu aussi une bergerie, non ?
Au départ, on comptait faire que du plein air intégral. Et on se rend compte que pour stocker le foin, pour tout ce qui est entreposer aussi le matériel, il nous faut un bâtiment quand même de 250 à 300 mètres carrés. Donc là, donc cette longe de châtaignier sur laquelle on se retrouve là en ce moment comporte énormément de bois de grumes et des bois qui parfois ne pouvaient pas être tous valorisés en charpente, mais qui en plancher, en tout cas pour bergerie et tout ça, en faisant un étage... Volige convenait parfaitement. Donc là, rien que sur cette longe qui fait à peu près 200 mètres de long, qui est avec des châtaigniers qui ont, eux, 40 à 50 ans, on sort 16 mètres cubes de bois. Donc voilà.
Mais cette forêt qu'on voit devant nous, qui est, je crois, qui est là depuis plus de 50 ans et qui est en fait partie des semences, je crois, ce n'est pas planté. Voilà. Est-ce que c'est comme plutôt rare ici dans la région ?
Alors, pas du tout. Il y a une très très grosse déprise agricole ici parce qu'au fait, en Dordogne, en tout cas Périgord vert, c'est essentiellement de la polyculture, petits élevages, un petit peu de terre, bon voilà. Et ce qui se passe, c'est que avec le remembrement, il y a quasiment plus qu'une ou deux fermes par commune. Et donc des terres qui étaient comme ça enclavées dans la forêt ont été petit à petit abandonnées parce que ça faisait trop de trajets en tracteur pour venir sur souvent des parcelles compliquées à exploiter parce que les arbres s'y étaient mis, il y avait des tournants, donc les engins étant de plus en plus larges, donc voilà. Et là on est typique, c'est une terre qui s'appelait le Clochou qui fait 1,5 hectare, qui s'est emboisée depuis, la dernière fois qu'elle a été labourée c'était en 56, donc tous les arbres qu'on voit ici qui ont donc, les plus grands ont 25 mètres les chênes là, ça, voilà, ils sont nés de semi-naturel. Et alors on retrouve principalement comme essence sur cet hectare et demi qui s'est ensemencé, c'est du chêne, du frêne, un petit peu de charme, et puis bon, après des arbres donc qui sont dits, enfin, pour le bois peu intéressants, mais qui au point de vue de la diversité sont quand même très 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 intéressants, c'est des aubépines, des bouleaux. Il y a de l'orme. Là, par exemple, on a la chance d'avoir un orme qui a plus d'une quarantaine d'années et qui n'est pas atteint par la graphiose, voilà, qui est présent.
pourquoi en fait on ne voit pas plus de chênes en Dordogne, parce que visiblement, en tout cas ici, ça pousse bien, c'est une valeur assez énorme, le chêne, ça pousse tout droit. Alors en fait, pourquoi il y a cette presque monoculture, on pourrait dire ailleurs, on a l'impression de châtaigniers?
Oui, je crois qu'il y a eu une période aussi de surexploitation. Beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui de dire qu'on ne trouve plus de beaux sujets en chêne, parce que des arbres de plus de 150 ans, il y en a plus, ils ont tous été coupés. Et oui, c'est un vrai problème. Ici, sur cette propriété, c'était par exemple des charbonniers, donc de père en fils, depuis trois générations, ils exploitaient le charbon. Donc un arbre, même si c'était un beau fût bien droit, qui était bien parti vers sa lumière, qui allait faire un houppier, on le passait en bois pour faire du charbon. Quoi, voilà.
Parce qu'il y avait des forges ici, hein.
Voilà, depuis le XVIIe siècle, XVIe siècle, il y avait des forges dans ce pays, et qui ont des forges royales, donc qui servaient à faire les canons depuis Louis XIV. Et donc ça a servi essentiellement à ça, voilà. Ouais.
Michel Mazot vient d'une famille impliquée dans la filière bois depuis des générations. Il est propriétaire forestier et a mené une entreprise qu'il a dû fermer récemment. Michel est également mérinier, c'est-à-dire un bûcheron qui débite les mérins, les bois pour des tonneaux en chêne. Un métier dont nous parlerons dans la prochaine émission. Ici, Michel brosse un constat inquiétant de l'état de la forêt dans la région.
Je n'ai jamais pu travailler avec des coopératives, avec ces gens-là. Et donc c'est pour moi un petit peu une catastrophe de voir toutes ces coupes à blanc et toute cette manière d'exploiter la forêt, puisque nous, on a une forêt qui nous appartient, privée, qu'on a toujours gérée par du jardinage et des puits de lumière et des choses comme ça, quoi. Donc on ne fait que des prélèvements ponctuels. Ça nous permet, au bout de quatre générations, d'avoir toujours de très beaux arbres sur nos propriétés. On a essayé de préserver au maximum les bois d'œuvre, les bois de qualité, avec plutôt un jardinage de la forêt, contrairement aujourd'hui à l'industrie qui emploie des gros moyens pour avoir le maximum de bois en minimum de temps, quoi.
À quel moment ça a commencé, cette approche beaucoup plus industrielle? Est-ce que c'est très récent ou est-ce que c'était déjà dans le 19e par exemple?
Non, l'industrialisation et la mécanisation à outrance dans la forêt, à mon avis bien sûr, date de l'après-tempête. Après la tempête 99, on est tombé sur des taillis extrêmement difficiles à exploiter. Et pour en arriver à bout, on a fait appel aux abatteuses, et qui depuis les investissements faits par ces gens-là, ils ont été obligés de trouver des débouchés importants. Et l'industrie s'est glissée dans ce créneau-là pour continuer à faire investir des exploitants. Et aujourd'hui, ils sont obligés de passer par des coupes à blanc comme ça pour rentabiliser leur machine, leur matériel.
Et des entreprises comme le vôtre qui travaillent un peu, disons, différemment, il y a très peu?
Moi, j'avais une entreprise jusqu'en 2007. Et le fait de travailler différemment a fait que j'étais obligé d'arrêter mon activité, tout simplement.
La grande différence, c'est que vous avez essayé de faire ce travail beaucoup plus sélectif dans la forêt. Et puis
Oui, on le faisait d'une manière beaucoup plus artisanale, avec véritablement des prélèvements ponctuels. Et aujourd'hui, avec des salariés, on n'avait plus les débouchés pour maintenir une activité.
Mais maintenant, il y a un nouvel élément, c'est un peu l'énergie, quoi, le bois énergie. Comment vous voyez ça?
Le phénomène du bois énergie, on a l'impression que c'est une bouffée d'oxygène pour la filière bois. C'est sans doute vrai d'un point de vue économique à court terme. Mais à mon avis, ça va être une véritable dégénérescence des forêts à but de bois d'œuvre. Et on va de plus en plus retrouver des forêts de petit diamètre qui vont être exploitées de manière régulière. Et les gros bois sont voués à court terme, sinon à disparaître, au moins être concentrés dans des petits îlots qui ne seront plus du tout représentatifs de la forêt telle qu'on l'imagine et telle qu'on l'a toujours imaginée, quoi.
Les arbres de petit diamètre, ce seraient plutôt des arbres style châtaignier qui existent ici dans le coin, ou on risque d'amener aussi d'autres espèces complètement étrangères, quelque part, à la région?
Oui, à mon avis, c'est certain qu'on importera des espèces. On a déjà fait il y a quelques années, et je me souviens très bien, la date, je vais peut-être être un petit peu faux dans la date, mais ça devait être dans le début des années 80, on avait essayé d'implanter des eucalyptus en limite Charente-Dordogne, pour l'industrie du papier. Et bon, ça avait été un échec parce que ces bois-là n'étaient pas adaptés à la région, notamment dû au gel. Mais je suis certain qu'aujourd'hui, avec les génétiques, on arrivera à trouver des variétés, des essences qui pourront résister à tout ça et qui produiront ce que nos industriels veulent bien que l'on produise. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils vont mettre ces essences-là en remplacement de forêts que l'on a actuellement avec des bois qui nous servent à de multiples opérations et multiples besoins.
Surtout, c'est aussi des forêts diversifiées. Je veux dire, là, oui, c'est vraiment une seule monoculture, on pourrait dire.
On arrivera de la monoculture, oui. C'est-à-dire qu'on aura 10 hectares de pins maritimes, on aura 10 hectares d'eucalyptus, on aura 10 hectares de robiniers, et ce sera véritablement de l'agriculture moderne forestière.
Parlez un peu des robiniers, parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui prend de l'importance par ici.
Je ne sais pas si ça prend de l'importance. En tout cas, un fait est certain, c'est qu'on vient d'en implanter une superficie relativement importante, sans doute à titre expérimental. Ce sont des robiniers qui vont être exploités tous les 3 ans, de manière mécanique, bien sûr, et pour le bois énergie.
Ça veut dire les tiges, ils arrivent à grandir assez en 3 ans pour être utiles pour...
Oui, c'est ce qui fait dire qu'ils ont sans doute été modifiés. Autrement, je ne vois pas d'autres explications pour l'heure.
Mais j'aimerais comprendre les conséquences à long terme de tout ça, sans doute pour le sol et pour plein d'autres choses. C'est néfaste, mais aussi, je voulais savoir, plus tard, ça va être difficile finalement à trouver des bois de bonne qualité.
À mon avis, nos arrière-petits-enfants, mais même sans doute nos petits-enfants, ne verront plus jamais un chêne de 1,50 m de circonférence, quoi. Voilà, tout simplement. On va arriver, ou alors, comme je disais tout à l'heure, dans des îlots, parce que des propriétaires auront bien voulu, par amour ou par protection, garder des bois voilà, de manière traditionnelle. Mais à mon avis, l'industrie du bois, rapidement, va couvrir une partie très 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 importante du territoire.
C'est-à-dire que voilà, pour le bois d'énergie, ça va marcher. Mais par contre, toute une autre partie de l'industrie liée au bois va péricliter, faute
de matières premières. Mm-hmm. Je pense qu'effectivement, les scieries aujourd'hui auront quelques difficultés à trouver de la matière première à moyen terme. Mm-hmm. À moyen terme, on peut le voir comme ça. Et sans compter la biodiversité qui va en pâtir sous ces forêts que nous avons aujourd'hui.
Est-ce que l'exemple de notre ami ici, Thibault, c'est exceptionnel, ou est-ce que vous pensez que quand même chez les propriétaires privés, il y a quand même un peu une conscientisation, enfin des personnes qui commencent à comprendre qu'il faudrait faire autrement?
Il y en a, mais ça sera à mon avis toujours marginal. La grosse majorité des propriétaires forestiers aujourd'hui veulent faire de l'argent avec leur forêt. Vous avez des gens qui achètent de la forêt pour faire des placements d'argent. Et quand on parle de placement d'argent, automatiquement, il faut avoir des retours sur investissement. À mon avis, l'industrie sera pour eux la seule réponse à ce retour sur investissement.
Mais c'est-à-dire qu'on pourrait plus ou moins dire que il faut vraiment sortir la forêt de la profession. C'est-à-dire que peut-être la seule chose qui peut faire pression pour que ça se passe autrement, c'est qu'il y a plus de monde, des citoyens, tout simplement, non liés forcément à la profession, mais qui disent non, ça on ne veut pas.
Ça sera peut-être une solution. Maintenant, je vais vous dire, le fait que nous en soyons arrivés ici, à mon avis, toujours, bien sûr, et ça, tout ce que je dis n'engage que moi, est lié aussi au fait qu'il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années, il existait énormément de petites structures forestières, scieries et autres, qui maintenaient ce patrimoine forestier, parce que les propriétaires forestiers étaient attachés à leurs scieurs, conservaient les bois, renouvelaient les bois. Aujourd'hui, tout cela, malheureusement, est fini. Les petites scieries disparaissent vitesse grand V, et nous n'avons plus en scierie que des très très grosses structures. Et autres scieries, ce sont des industriels. Et donc on en revient toujours au même, en fait, on tourne en rond. Hein. Cette forêt-là disparaît parce que justement, les petites structures qui transformaient pour le local n'existent plus. Et très souvent, donc, les propriétaires, ce sont des héritages de parents, de grands-parents. Les propriétaires eux-mêmes ne connaissent pas leur forêt. et font confiance à des gens qui, eux, ne font que du business. Voilà. Donc, effectivement, ce que fait Thibault, c'est très bien. Mais malheureusement, je pense que c'est encore marginal et malheureusement, ça risque de le rester.
Pas de note d'optimisme, donc, quelque part.
Très honnêtement, je ne suis pas très optimiste pour la suite, non. Au niveau de la forêt française et européenne, en général.
Heureusement, il reste encore des exceptions dans ce sombre tableau. Frédéric Monsalé est paysan scieur qui habite à 4 km de la ferme de Thibault. C'est chez lui que les arbres coupés pendant le chantier sont transformés en poutres, en planches, en voliges.
Je fais exploitant agricole à titre principal et après j'ai l'activité scie à côté, mais de façon un peu, comment dire, marginal, quoi. J'ai continué ça suite à... C'est mon beau-père qui avait ça. Donc, comme il y avait un petit peu de demande, eh bien, je suis beaucoup un petit peu à côté pour les particuliers, notamment. Mm-hmm. Et puis, un petit peu pour quelques entreprises, mais c'est beaucoup pour des particuliers, quoi.
Parce que c'est quelque chose qui existe, je pense, de moins en moins, non, en France. Je veux dire, des scieries de petites dimensions.
Oui, des scieries comme ça, il n'y en a plus beaucoup qui existent, parce qu'il y avait même aussi quelques scieries mobiles qui existaient, qui sont mises en place après la tempête, comme il y avait beaucoup de demandes, et aujourd'hui, elles ont pratiquement disparu. Et après, de la scierie comme je fais, c'est des surtout sillages à façon. Et de moins en moins de demandes au niveau charpente, et comme aujourd'hui beaucoup achètent du bois déjà, des sapins blancs du nord ou autre, et travaillent beaucoup moins avec du bois de charpente, chêne, châtaignier, qui est bien sûr un peu plus cher. Donc
l'avantage avec une installation assez petite, et c'est probablement qu'on peut faire des petits lots, enfin des petites commandes, mais des gens qui veulent vraiment quelque chose de particulier.
Voilà, c'est ça. C'est les dimensions et puis même la qualité de bois, mais sur des demandes un peu plus petites, mais vraiment pour vraiment faire ce qu'ils veulent, quoi.
Vous allez faire quoi en fait pour Thibault? Donc c'est pour tout un bâtiment finalement, non?
Voilà, apparemment c'est pour refaire un toit de bergerie et puis aménager l'intérieur. Donc, suivant après le bois, les dimensions qui vont être sorties, on taillera dedans pour faire la demande, soit poutres, apparemment c'est quelques petites poutres, des chevrons, voliges et puis planches.
Ça c'est quand même une commande, peut-être pour votre scierie relativement importante, non?
Oui, oh non, ça reste en moyenne, parce qu'il y a des gens qui viennent pour des fois deux, trois morceaux de bout de bois, d'autres après pour une commande, juste une partie de charpente, ça dépend, c'est assez varié quand même.
Et vous travaillez en fait dans le Syrie combien de... enfin un peu toute l'année, ou c'est en hiver plutôt ou...
Mais voilà, comme moi je suis par rapport à mon métier, j'essaye de... souvent, après c'est le temps. Mm-hmm. Quand on a des jours de pluie ou autre, et puis l'hiver, où on a un peu moins d'activité au niveau des animaux et tout, où je fais ça. Donc c'est pour ça que je ne peux pas le faire tous les jours à la demande, être sur le chantier, quoi.
Ouais. Vous avez en fait plutôt l'élevage ou aussi céréales, ou qu'est-ce que vous faites ici?
Surtout l'élevage, mm-hmm. Un petit peu de céréales, mais c'est surtout l'élevage, quoi. Mm-hmm. Et c'est surtout les vaches allaitantes.
Et où est-ce qu'il faudrait aller loin pour trouver un peu de ce genre de démarche, ce genre de dimension?
Oui, parce que les dernières autour de ma commune ont fermé il n'y a pas longtemps. Donc après, il faut être assez loin pour trouver ma dimension. Après, il y en a des plus grosses, mais qui travaillent sur des gros volumes. Donc après, pour des particuliers comme ça, c'est beaucoup moins... Pour eux, ça ne les intéresse pas, quoi.
Oui. Vous travaillez seul ou vous avez un collègue ou...
Alors pour travailler, j'ai quelqu'un déjà sur mon exploitation à mi-temps qui m'aide, parce que pour la scie, il faut être au moins deux personnes. pour pouvoir la faire tourner. Donc j'ai quelqu'un, oui, avec moi qui pour m'aider, quoi.
D'accord.
Où est-ce que vous avez appris à scier ?
Alors voilà, j'ai appris, parce que je ne suis pas du métier, c'est avec mon beau-père, comme moi j'étais de l'autre côté de la scie, et en le voyant travailler, et puis il m'a expliqué un petit peu, suivant des essences, et puis le bois qu'il y avait, ce qu'on pouvait faire un peu dedans, et puis la façon de s'y prendre pour essayer de le scier au mieux, quoi. J'ai appris ça sur le tas, quoi.
En fait, c'était assez frappant. Aujourd'hui, on a vu les lagueurs qui est monté dans l'arbre, et il a dit, mais en fait, moi, je n'ai jamais travaillé dans le châtaignier, et donc je ne sais pas comment ça va réagir. Et c'est quand même important pour lui, parce qu'il était tout à fait là-haut, là. Mais j'imagine, pour vous aussi, il faut connaître les espèces, les essences, enfin, les différentes sortes d'arbres qui vont... Ils travaillent différemment, j'imagine.
Voilà, oui, quand on les scie, souvent, parce que, à part dans du Douglas, où le bois pousse à peu près droit... Mais dans d'autres, que ce soit le châtaignier ou le chêne et tout, ils ont des façons de pousser des fois un peu tordues ou autre. Et puis ils arrivent, même en les sciant, à prendre une forme. Et c'est justement en faisant tourner l'arbre et le mettre comme il faut sur la scie, on arrive à faire quelque chose d'à peu près droit. Qu'on peut pas faire et qu'ils peuvent pas faire sur des scies industrielles où ils passent carrément toute une bille complète et ça sort après comme ça sort. Quoi. Voilà.
Et est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ce que vous faites ?
Alors, dans ce domaine, pas beaucoup, parce que c'est un métier, comme tout métier, un peu manuel. On a du mal, même je vois dans les scieries, à trouver des gens qui veulent un peu travailler là-dedans. Après, c'est dans les autres scieries, c'est des scieries de palettes, mais bon, c'est des trucs un peu plus industriels. Donc là, et puis, ils brassent des volumes moins importants, parce que nous, quand on fait de la charpente et tout, c'est quand même des fois un peu lourd, surtout dans du chêne. Donc, si on n'est pas trop équipé, physiquement, c'est des fois un peu dur.
Mais c'est quand même plus beau ce qu'on sort que les palettes.
C'est beaucoup plus joli, oui, en bois que ça, oui. Ouais. Et puis, on prend plus plaisir quand on voit du beau bois, voir quand même quand il sort, même si c'est nous, après, on ne travaille pas. Quand on sort quelque chose de propre, et notamment après, quand on fait des charpentes ou même des aménagements intérieurs.
En plus, c'est souvent pour des gens qu'on connaît. On va peut-être voir le résultat après. Voilà, c'est toujours, moins anonyme.
Voilà. Quand je fais quelque chose, j'aime bien voir après, voir comment c'est le bois.
Qu'est-ce qu'on
fait avec ? Voilà, c'est le bois prêt à travailler, si je l'ai scié à peu près comme il faut, si ça sort bien. Et ouais. C'est vrai que c'est intéressant de voir. Et c'est là qu'on apprend après, qu'on voit des choses qu'on ne ferait pas après. On dit, on ne va pas le faire comme ça la prochaine fois ou autrement. Et... Non, c'est très, très intéressant. Quoi. Mais après, il faut aimer ça. Quoi. Ouais.
Venons-en maintenant au chantier qui a fait résonner dans la forêt les bruits criards des tronçonneuses, mais aussi les pas doux des chevaux. C'est lors de cette cinquième rencontre du réseau que, pour la première fois, un chantier a été organisé en forêt. Les bûcherons ont amené leurs outils, les débardeurs leurs chevaux. Dans un taillis très dense et atteint par le chancre, il s'agissait donc de travailler au profit des arbres les plus droits et vigoureux, en abattant et sortant ceux qui réduisent leur espace vital.
Ça, ça va au sillage. Yo, doucement, fille. Yo, là. Yo, voilà. Très bien, fille.
Alors Marco, toi tu travailles avec Fred et Jean-Yves, c'est ça ? Voilà, c'est toute une équipe de débardeurs. Mais c'est vrai que j'étais assez frappé par... Tu travailles avec les deux chevaux, mais aussi avec tout un appareil derrière pour charger des bois sur une espèce de remorque, un mélange quelque part entre animal et quand même mécanique.
Oui, tout à fait. Ça s'appelle un porteur traction animale, donc c'est un châssis avec 6 roues, moteur auxiliaire qui actionne une grue avec un berceau. Donc c'est un outil qui permet de mettre des stères, des bois qui sont billonnés à une longueur précise, 2 mètres, 2,50 mètres. Donc c'est une capacité de 4 stères, 4 stères et demi maximum. Le poids à vide est d'une tonne 100. Donc ça c'est un porteur qui a été fabriqué en France dans l'atelier Camille Junien. C'est une personne qui est spécialisée dans la traction animale au niveau conception du matériel, qui va bientôt prendre sa retraite notamment. Cet outil nous a permis de nous créer de nouveaux débouchés aussi, parce qu'en général les débardeurs travaillent en traîne directe, c'est-à-dire que le bois est traîné au sol avec une chaîne, et pour répondre à certains critères, disons économiques et techniques, Ce porteur nous permet de pénétrer un petit peu plus loin dans la forêt, d'augmenter nos distances de traîne qui peut aller jusqu'à 300 mètres, ramasser des branches, des choses comme ça. En général, notre organisation de travail consiste à ouvrir on va dire, un chemin d'exploitation qui est minime quoi, par rapport à la largeur de notre outil. Et on fait une opération de débuscage avec les chevaux sur une longueur très courte, qui est de 20 mètres, et les bois sont en longueur. Et après, il y a un bûcheron qui va découper les bois à dimension suivant le marché. Et ceci va nous permettre, avec le porteur, de ramasser ces billons. Donc on évite la pénibilité du bûcheron à piler très très haut. C'est toujours au niveau de cette notion de rendement, quoi. On permet d'avoir des rendements qui peuvent satisfaire aussi notre coût de prestation. Avec la vente du bois, ça peut annuler un surcoût.
Est-ce que tu as une idée à peu près combien de débardeurs il y a en France ?
En gros, là, il y a une liste qui a été parue dans le magazine Sabot Magazine. On est à peu près une vingtaine de débardeurs en France, répartis à peu près sur toute la France. Il n'y a qu'en Limousin où on est trois qui sont vraiment regroupés, qui travaillons vraiment, en tant qu'associés, même si c'est informel. Donc on est une vingtaine, comme le type de matériel que j'ai, le porteur. Sinon, en France, je crois qu'il y en a trois autres.
C'est vraiment pas le fait en série, les grandes masses. Hein. C'est presque individuellement.
Oui. Enfin, le porteur qu'on a, nous, c'est une pièce, on va dire, unique. Voilà, c'est le seul porteur français qui existe sur le territoire national.
Ce qui veut dire, malheureusement, sans doute, que c'est pas très bon marché non plus, non ?
C'est un investissement qui est de l'ordre de 24 000 euros hors taxes. Donc c'est un coût assez conséquent. Mais si derrière, on a fait cet investissement avec Jean-Yves Boudin, car derrière, nous savons le potentiel de travail qu'il y avait. Et on avait un marché dessus où on allait l'utiliser quasiment toute l'année, voire sur plusieurs années, quoi, ces investissements à plusieurs années. Donc on a tenté le coup. On a pris, comme toute entreprise, on a fait une prise de risque et qui s'avoue maintenant honnête.
Oui. C'est quand même très très pratique. Ça épargne beaucoup de travail, non ?
On réduit énormément la pénibilité humaine. Et dans notre système actuel en France, c'est surtout la main d'œuvre qui coûte cher, quoi. C'est pas le tas de ferraille qui coûte cher, c'est surtout la main d'œuvre. Sinon, si ça coûtait pas cher la main d'œuvre, on mettrait des gens pour piler le bois.
Les pieds posés sur les encoches qu'il a laissées. Il est beaucoup plus sécurisé.
Alors là, pendant qu'il grimpe, je vais vous expliquer, il y a peut-être des gens qui se demandent pourquoi il grimpe sur un arbre au milieu de la forêt pour enlever des branches et tout, alors qu'il y a plein d'arbres qu'on coupe comme ça sans se poser de questions. Alors, dans ce cas précis, c'est pas vraiment le meilleur exemple parce qu'il y a beaucoup de place, on pourrait même l'abattre sans se permettre d'enlever le houppier, sauf pour à la limite préserver le frêne qui est là-bas et quelques petits arbustes qui sont au-dessous. Mais dans un contexte de forêt qui est diversifié, étagé, où il y a plein d'autres peuplements autour, le déhoupage, ça permet de démonter la partie volumineuse de l'arbre, le houppier donc, en plusieurs parties. Donc on peut diriger les branches là où on veut et éviter de casser tout le peuplement qui est au-dessous. Et ensuite, une fois qu'il ne reste plus que le tronc, lui, on le dirige bien comme il faut et il se fait beaucoup plus de place sans faire de dégâts aux alentours.
À ce stade-là, je tiens à dire important que même prêt à mourir un arbre tient mieux tant qu'il a des branches. Et quand il n'en a plus, vous allez voir progressivement dans les 2-3 dernières branches qui vont arriver, que l'arbre il va bouger beaucoup plus. Si ça ne vous parle pas, moi ça me parle. We'll be right back.
pendant la journée publique que Mustapha Bounzel, Mousse pour ses amis, élagueur et formateur, a fait une démonstration de démontage de houppiers. De nombreuses personnes de la région, professionnels de la filière bois, propriétaires de forêts ou simplement des curieux, sont venus découvrir les différents travaux menés dans le cadre de ce chantier. Écoutons maintenant le regard porté sur le chantier par Cécile Mavero, technicienne forestière et collègue dans l'Aude de Gaëtan Dubus, coordinateur du réseau.
Je suis installée dans l'Aude, mais seulement depuis bientôt 4 ans. Moi, je suis quelqu'un qui entame sa deuxième vie professionnelle, en fait, puisque j'avais une autre vie professionnelle avant, à Paris, radicalement un métier qui n'a strictement rien à voir avec celui de la forêt, qui est un peu le métier que tu es en train de faire en me tendant le micro, mais voilà.
Mais est-ce que c'est, dans votre expérience, quand même possible de travailler comme tu fais avec Gaëtan, et qu'il y a quand même... Un revenu qui est bon, suffisant pour inciter des gens à travailler comme ça. Quand
moi,
même.
Je pense qu'il y a vraiment la place pour ce modèle-là. C'est évident qu'il y a la place. Simplement, il faut qu'on arrive à mettre en place toute la filière. Moi, je vois Gaëtan comment il travaille sur le Tarn. C'est vraiment arriver à travailler sur une filière courte, comme ça se faisait auparavant, où ici on pouvait couper, voilà, comme ça se passe aujourd'hui. Le sieur là, qui va couper les grumettes, il est à 4 km. Bon, là, c'est Thibaut qui va se servir du bois. Mais moi, ce que je me dis, les gros modèles dominants, on va pas réussir à les supprimer. Mais ce qu'il faut, c'est simplement d'arriver à montrer qu'à côté de ça, qui doit exister, parce que y a l'industrie qu'il va falloir pouvoir alimenter, etc. Donc, on le leur laisse. Ils n'ont pas envie de la petite forêt paysanne, etc., parce que y a des nœuds dans le bois, parce que y a plus de 300 mètres de débardage, parce que y a de la pente et que c'est trop dur, etc., etc. Eux, ça ne rentre pas dans leur modèle. Tant pis qu'ils aillent, qu'on fasse la forêt pour eux, pourquoi pas, mais que pour toutes... La petite, entre guillemets, forêt, parce que c'est elle qui représente, mine de rien, le plus de superficie, il faut qu'on arrive à remettre en place, parce que ces circuits existaient déjà. Et après, chacun ira où il a envie d'aller. Il veut aller en filière courte, et ben voilà. Et puis s'il a 300 hectares de pins maritimes, et ben il ira voir l'industrie. Mais il faut arriver à ce qu'on ait le choix. Mmh. Moi, c'est ça l'important, c'est qu'on ait le choix et que les choses puissent se faire. Voilà. Moi, je suis pas ne touchons pas aux forêts, parce que moi, je pense qu'il y a des choses à y faire, et même à améliorer l'existant. Une forêt, là, comme le chantier qui est en train de se passer, je veux dire, là, dans quelques années, quand on va y passer, ça va être joli, ça va être beau. Enfin, c'est déjà beau, mais rien que en voyant le travail des bûcherons aujourd'hui. Donc là, on a pris ce qu'il fallait prendre pour faire le piqué, pour faire des choses. Et ce qui reste, va continuer à croître, à s'embellir. Et puis, il y a des petits qui vont arriver derrière. Et voilà, et le cycle de la vie dans cette forêt va continuer.
On a l'impression que ça va être plus diversifié au plus, parce qu'il y a quand même les frênes, il y a d'autres arbres, des chênes qui peuvent vraiment trouver leur place dans les trous qu'on fait là.
Voilà, tout à fait, on peut retrouver de la biodiversité. On a voulu appliquer à la forêt française les modèles scandinaves, mais c'est absolument ridicule. Je veux dire, on n'est pas du tout dans le même type de forêt, on n'a pas du tout les mêmes... je veux dire, là-bas, c'est quasi de l'agriculture. Hein. On est sur des grandes distances, tout est plat. Il n'y a pas de problème, évidemment. On mécanise à fond. Et là, sur nos petites forêts, où c'est en vallon, où c'est en creux, en pente et tout ça, c'est impossible. On ne peut pas faire de la forêt industrielle ici. Donc, il faut... Voilà, là, ça y est, là, ça commence à percuter. Donc je pense que ça va gagner. Après, on aura des gens plus classiques et des gens plus alternatifs. Mais je pense que je vois bien ça s'installer, en tout cas. Voilà.
Le dimanche après-midi, nous sommes une cinquantaine à partir à Brantôme, où Marie et Étienne Clessin sont propriétaires d'une forêt de 14 hectares où Gaëtan a prévu un moment de réflexion silencieuse.
On va se donner 10 minutes en silence. Et on reste dans un rayon ici, mais en essayant vraiment de chacun trouver la relation qu'il a envie d'avoir avec cette forêt, qui est, tout le monde est d'accord, magnifique. 10 minutes après, donc on se remet en cercle ici, et puis on va échanger sur qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on ferait pas. Ça va être des éclairages pour Marie et pour Étienne, et puis peut-être aussi pour la suite, pour ce petit noyau-là de forêt sans âge. Je pense qu'il va y avoir ici un petit germe qui peut s'aimer autour dans la région. Donc je vous donne deux petits éléments, mais vous l'aurez peut-être deviné. On est en versant nord, sur des sols argileux, profonds, riches. On est dans une chênaie charmée. Ça veut dire ce qui domine, c'est le chêne, il structure la forêt. Et puis en dessous, vous avez aussi des petits chênes, mais vous avez aussi des charmes. Et puis vous avez quelques alisiers, quelques hêtres plus haut, quelques frênes, quelques merisiers de temps en temps, quelques châtaigniers. Il y a une diversité incroyable ici. Quelques pins, voilà. Et puis des semis, peut-être des érables aussi, je ne sais pas. Enfin voilà, c'est fantastique la vie qu'il y a ici. Donc on va faire ce petit exercice, si vous êtes d'accord, de rester dans le silence et de sentir qu'est-ce qu'elle nous évoque, cette forêt. Et qu'est-ce qu'on aurait le droit d'y faire ?
Pour moi, on est ici dans une forêt qui est caractéristique de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Une société un petit peu vieillissante, pas dépérissante, mais une société qui n'arrive pas à accepter ses jeunes. C'est emmerdant. Parce que si on la laisse comme ça, demain matin, elle sera dépérissante. Et là, on n'aura plus aucun moyen d'action. Donc il me paraît important d'intervenir ici, pas tout à fait n'importe comment, mais pour faire en sorte que les jeunes puissent commencer à s'exprimer.
Non, juste dire que c'est un endroit magnifique et qu'on a envie que ça reste et que ça grandisse et que ça continue, quoi. Ouais. C'est tout.
Pour moi, c'est un peu un berceau, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une grande richesse qui est en dessous d'une grosse couverture. Et en me baladant, j'ai pu apercevoir autour des ancêtres un peu plus haut, il y avait comme des puits de lumière, quoi. Et la vie qui remontait, qui jaillissait, les petits qui sortaient. Et beaucoup de variétés différentes, en fait. Donc très très riche. Et il y a cet aspect de lumière, voilà. Aux endroits où il y avait un peu plus de lumière qui rentrait, je sentais que ça pouvait sortir, quoi. Voilà. Et très paisible, c'est agréable. On n'a pas envie de tout couper, quoi. Préserver au maximum. Ouais.
Oui, il y a enfin, une faune et une flore dans la terre ici, qui est riche, évidemment, qui fait pousser. Et c'est pas tout à fait propre. Je trouve que c'est très bien comme forêt. La terre est riche, argilo-calcaire, il y a une moule. Il y a pas mal de bois morts par terre qui aident beaucoup la faune. Je viens de trouver plusieurs espèces. Et pour moi, c'est important de protéger une terre comme ici, le sol, qui fait pousser les arbres, les symbioses entre les mycélies des fongies et les arbres et tout le reste, toute la communauté, ça fait du bien. Et à mon avis, il faut ne pas casser ces forêts avec des grosses machines, de faire tout ouvert et de tout chambouler, mais de simplement de prendre les arbres sélectivement. Et comme on a vu ce matin, c'est très bien. Je suis très content d'avoir vu cela.
Hi, yo, hi, Marco, tronçonneuse, s'il te plaît, merci.
Mais moi, je les vois bien, là. Voilà.
En fait, c'est pas facile parce que on avait convenu un truc avec Isa, mais on pourra pas pouvoir le faire de suite. On s'est dit que c'est une belle forêt pour faire l'amour, en fait. Donc on va vous laisser partir un petit peu. On vous rejoindra plus tard. Mais je pense qu'il faut juste y vivre, en fait, dans cette forêt, c'est tout, quoi. Voilà.
Ben moi, dans cette forêt, je trouve qu'elle est bien. Il n'y a qu'à voir. C'est vrai qu'elle ressemble un peu à la société qu'il y a maintenant. Si on regarde en bas, il n'y a que des troncs. Il faut regarder en haut pour savoir qu'il y a des espèces différentes. C'est vrai que bon, ouais, les frênes, les charmes, si on, enfin les chênes, les charmes, si on regarde en bas, ils ont tous le même tronc. Alors ils essayent de faire comme tout le monde. Et il faut voir un peu ce qu'il y a dans la tête pour savoir, comme ici, pour savoir un peu qu'est-ce que c'est qui n'est pas comme tout le monde. Moi, dans cette forêt, je trouve qu'elle est bien, qu'elle est calme. Et que vu que la main de l'homme n'y a pas mis son gros pied dans le plat, elle peut continuer à pousser tranquillement, et que les seules choses qu'il y aurait à faire, ça serait bien la laisser comme elle est, peut-être sortir quelques, dans des bosquets un peu serrés, sortir quelques individus, et surtout pas trop la chambouler.
À Marie et Étienne, en décidant comme ça, sur un coup d'amour, je sais pas quoi, de dire on achète cette parcelle-là, parce que comme ça on la protège un peu, ils ont choisi de prendre sur eux la responsabilité de l'avenir de cette forêt. C'est quand même incroyable. Ça veut dire elle hérite de tout un passé. L'homme a déjà beaucoup travaillé ici, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire, comme il dit. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des coupes, c'est très clair. Et donc maintenant, ils sont là en train de se dire, voilà, en fait, ils sont responsables, quoi. C'est la force de la propriété, mais en même temps, toute la liberté que ça donne et aussi la responsabilité que ça donne. Et ils portent tout le poids du passé en disant, on l'achète, elle est à nous. Et moi, je sens dans ce que dit Étienne qu'il y a beaucoup d'humilité. Il dit, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Voilà. On passe par une phase de chaos où on ne sait pas. Et je pense qu'on en est là, et c'est ça qui est bien. Moi, j'aimerais que quand on rentre dans toutes les forêts, avant de faire quoi que ce soit, on passe par cette phase de chaos où on sent et où on se dit, peut-être qu'en fait, il faut que je fasse rien. Peut-être qu'il faut que je fasse beaucoup, peut-être, je ne sais pas. Mais j'arrive neutre, je ne sais pas, on va voir. Par contre, ce qui permet ça, c'est quand même un moment, le fait de dire, je suis propriétaire, j'en suis responsable. Si je n'ai pas la maîtrise, je ne peux pas. Et si je sais que je suis responsable, je peux passer un temps où je me dis, peut-être qu'il faut que j'attende, simplement. Il faut que j'attende de savoir ce qu'il faut faire. La forêt me le dira, mais je passe par cette phase de chaos.
Bon, en vous écoutant, j'ai plusieurs impressions différentes. Donc j'ai, d'une part, Gaëtan qui nous dit que c'est presque un fils qu'on va baptiser et qu'on va être responsable parce qu'on en est propriétaire. Hein. Non, mais c'est un petit côté comme ça, bon. D'un autre côté, moi personnellement, j'ai très peu le sens de la propriété privée. Donc je crois que s'il y a des nids d'amour qui veulent se faire, si des gens veulent prendre des champignons, pour moi, je suis contre la chasse. Enfin, je ne veux pas que les chasseurs chassent ici en tout cas, mais je veux dire que les gens viennent pour des champignons, etc., ça ne pose pas de problème. Mais en même temps, je ne sais pas votre groupe comment il va évoluer, mais je ne serais pas opposé, comme il existe parfois, on va peut-être monter dans le village une sorte de jardin communautaire à disposition des gens qui n'ont pas de jardin et qui peuvent éventuellement avoir l'opin de terre. Je me dirais que les gens qui n'ont pas de bois, ça ne me dérangerait pas forcément qu'on leur dise, bon, ben, écoutez, voilà, on marque quelques arbres. Enfin bon, il y a tout un problème, j'imagine, de responsabilité, mais je veux dire, que des gens qui n'ont pas de forêt puissent en profiter un petit peu, je ne suis pas opposé à ça. Enfin, c'est mon... Tout en ne voulant pas non plus que ce soit dégradé, donc de façon extrême, il y aura presque des chemins où les gens pourraient marcher. Je ne cherche pas ça non plus, mais je dis, il y a peut-être des gens amoureux de la forêt, enfin, il y en a quelques-uns ici, de la région, et je crois que... Je vois pas ça comme un bien privé, inaccessible et fermé aux autres, quoi.
Vous savez, il n'y a pas très longtemps
qu'on a ces bois. Moi, pour l'instant, je ne fais que m'y promener. Je bois de baies aux arbres. Je sens un peu les choses, mais comme je vous dis, j'ai pas de, on n'a pas de projet. Et c'est un peu l'idée de se dire, comme le sens de votre association, se dire, bon, ben, on voit des massacres partout. Si on a l'occasion d'acheter un peu de bois, même que ce soit de façon individuelle ou de façon semi-collective, pourquoi pas, pour un peu casser ce rythme et montrer que qu'on peut faire autre chose. Donc en même temps, je me dis, si on ne fait rien du tout, ce n'est pas un exemple. Ce serait plutôt aller voir chez Thibault l'exemple du travail que vous avez fait. Voilà, mais bon, sans plus.
Dans la démarche, nous, on s'est dit, on est responsable de cette forêt. On demande, on s'informe et on demande aussi l'avis. Pas que d'une personne, de plusieurs personnes. Je crois que dans beaucoup de métiers, on ne peut pas être compétent et qu'on s'appuie sur les compétences des autres et on fait croiser les avis. Et à un moment, c'est vrai que c'est nous qui prenons la décision, mais de la façon la plus éclairée possible. Donc, je suis vraiment l'illustration du petit propriétaire, hein, là, qui se pose des questions. Et si on me dit, en général, tiens, ça peut aider la forêt d'intervenir légèrement, ou si d'autres disent, ah non, moi, vraiment, c'est à déconseiller, la décision sera quand même la mienne, finalement. Mais au moins, c'est en connaissance de cause. Et ma responsabilité, c'est à moi qu'elle reviendra, hein, si je me suis trompée. Quelque part, c'est plus facile de dire « on fait rien ». On l'aime bien, on fait rien. Bon, mais moi, je connais pas les dangers qui la guettent. Et je m'en voudrais beaucoup de me dire « tiens, ben, dans 20 ans, ah ben, c'est comme chez Thibault, on se dit « c'est dommage, on n'est pas intervenu, c'est trop tard ». Et le trop tard, moi, j'ai pas envie de le vivre. Voilà. Et donc, je crois que ce qui est intéressant ici, c'est ce débat-là.
On était parti avec Marie et Étienne sur l'idée d'intervenir ici, mais de prendre bien le temps de réfléchir comment, et pas n'importe comment, et voilà. Donc, de dire, par exemple, l'automne prochain, on ferait une éclaircie très douce. Et c'est pour ça, évidemment, qu'on a proposé à Fred et Marco de venir voir. Parce que... moi, j'ai dit d'emblée, j'habite loin, on est beaucoup à habiter très loin. Donc, habiter la forêt, pour moi, c'est ça aussi, c'est qu'elle soit travaillée par des gens qui habitent tout près. Parce qu'ils ont une relation plus facile et bon, ils sont pas tout près, mais c'est les seuls débardeurs à cheval les plus près. Il y a une petite chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que scientifiquement, les chênaies, c'est vraiment le royaume de la biodiversité, donc la diversité de la vie, de la diversité des espèces. Desmond Kaim, qu'on a entendu parler de la vie du sol un petit peu, vous en parlerez des heures durant parce qu'il est passionné et très compétent. Et la chênaie, c'est vraiment le royaume de la biodiversité. Et c'est une biodiversité assez menacée. Donc je pense qu'ici, c'est une belle occasion de se dire on va faire une opération, on va faire du bois, on va aider à aller vers cette forêt sans âge, mais tout en ayant tout le temps en conscience la diversité, le dynamisme de la vie, et qu'on ne veut pas aller contre, mais on veut aller avec.
C'était chez Marie et Thibault en Dordogne. Première partie. Il s'agit de la cinquième émission dans la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le Réseau pour les alternatives forestières.